Bonsoir. Bienvenue à cette édition du mois d'avril de l'émission La Voix de la librairie, émission diffusée en direct de la librairie Saint-Jean-Baptiste à Québec. Avant de commencer avec notre thème du mois, j'aimerais faire une petite annonce publicitaire. Sur Radio Fiat Lux, la radio web sur laquelle nous sommes diffusés en ce moment, il va y avoir une rediffusion des 16 émissions de la série Occupons les ondes. Et ça va être diffusé à partir de mercredi, le 3 avril, soit après-demain à 17h. Il y a donc 16 émissions de Occupons les ondes qui vont être rediffusées sur Radio Fiat Lux. Voilà, et c'est animé par l'équipe de Occupons Québec. Alors, nous revenons à notre mission du mois d'avril. Donc, ce mois-ci, nous allons poursuivre notre réflexion sur l'américanité et nous allons parler plus précisément des États-Unis. Les États-Unis, notre cher voisin, éléphantesque, que l'on perçoit parfois comme une menace et bien parfois comme une protection. Dans Le Soleil de samedi, on apprenait qu'en Arizona, le regroupement The Armed Citizen Project désire entraîner et équipées en armes, les femmes célibataires dans les secteurs où la criminalité est importante, soit dans les milieux défavorisés. Ici, nous, au Québec, on préfère leur donner des paniers d'épicerie. Mais bon, c'est une question de culture, j'imagine. On sait que la NRA, la National Rifle Association, tente de convaincre la population américaine, évidemment, que la meilleure manière de se protéger, c'est de détenir une arme à feu. Et ce sera en quelque sorte l'objet de notre première entrevue avec Mathieu qui va nous expliquer quelles sont les règles qui régissent les armes à feu aux États-Unis. Ensuite, on va s'intéresser à une ville qui a longtemps été le fer de lance de l'économie américaine, qui est aussi un symbole du mode de vie américain. Je veux parler de la ville de Détroit. Détroit, ville de l'automobile, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment pour autre chose que pour l'automobile, mais bien pour les photos d'immeubles et de quartiers abandonnés qui circulent sur le web. Rémi va nous expliquer d'où vient Détroit, comment cette ville-là est née, comment elle s'est transformée et ce qui en est de la situation actuelle. En conclusion de ces deux émissions consacrées à l'américanité, nous allons parler avec Mylène d'autochtonie et donc de la question de l'autodétermination de ces peuples qui habitaient autrefois ce grand continent américain avant qu'il ne devienne l'Amérique. Mais d'abord, on s'arrête quelques instants pour écouter une pièce très connue que vous connaissez très certainement, une pièce de Eric Clapton et qui va nous mettre un petit peu dans l'ambiance de la soirée. On écoute « I Shot the Sheriff ».
I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. Started out
shot, I shot it down. I said,
I shot the sheriff,
but I did not shoot the deputy.
Shot de Sheriff de Eric Clapton. Avant de passer à Mathieu avec les armes à feu, on a David ici, notre libraire et notre la personne, notre hôte, notre ami, qui va nous faire une courte citation. On t'écoute, David.
Oui, on voulait une de Gandhi. Elle n'a pas vraiment rapport avec le sujet que Tox va énoncer, mais quand même, c'est une belle citation. Alors, un conflit armé entre nations nous horrifie, mais la guerre économique ne vaut pas mieux qu'un conflit armé. Ce dernier est comme une intervention chirurgicale. Une guerre économique est une torture prolongée, et ses ravages ne sont pas moins cruels que ceux que décrivent si bien les ouvrages de la guerre. Nous nous préoccupons moins de la guerre économique parce que nous sommes habitués à ses effets mortels. Le mouvement contre la guerre est juste. Je prie pour sa réussite. Je crains pourtant qu'il ne soit voué à l'échec s'il ne s'en prend pas à la racine du mal, l'avidité humaine. Alors, c'était le Mahatma Gandhi.
Et c'était de Gandhi. Merci beaucoup, David. Alors, on va passer à notre premier invité de la soirée, Mathieu. Mathieu va nous parler ce soir de l'importance que les États-Unis accordent à ce droit de porter des armes à feu. Droit, si je ne m'abuse, qui serait protégé par la Constitution américaine. Bonsoir, Mathieu.
Bonsoir, Catherine.
Donc, effectivement, le droit de porter une arme aux États-Unis, c'est protégé par la Constitution américaine.
Absolument. D'ailleurs, c'est un peu là où j'entendais commencer ma présentation, en fait, pour permettre aux auditeurs d'avoir le sujet bien mis en perspective. Alors, il y a dans la Constitution des États-Unis... Bon, en fait, d'abord, pour savoir un peu qu'est-ce qu'il en retourne, c'est important de préciser qu'est-ce que c'est une constitution dans un état de droit. Alors, je ne sais pas si vous savez, vous, Catherine, qu'est-ce que c'est une constitution dans un état de droit?
Je n'ai probablement pas la définition du dictionnaire, là, mais je dirais que c'est un ensemble de dits, d'écrits sur lesquels la société s'entend pour créer, pour faire une société. C'est pas très clair, mon affaire. Hein?
Ben, écoutez, vous touchez les aspects essentiels. En fait, c'est... d'un point de vue juridique, en fait, c'est la loi suprême d'un État. Donc, c'est ce qui vient dire comment l'État va fonctionner. Et évidemment, ça régit également le pouvoir de faire des lois. Donc, c'est une loi qu'une loi ne peut pas contredire.
Okay.
C'est la loi qui va rendre certaines lois illégales, c'est-à-dire qu'elles sont inconstitutionnelles et elles n'auront pas d'effet.
Okay.
L'intérêt d'avoir des droits protégés dans une constitution, c'est que ça fait en sorte que le Parlement, par exemple, pour prendre un exemple ici au Québec ou au Canada, ne pourra pas adopter des lois qui vont aller à l'encontre de la constitution. Donc, lorsque j'ai un droit individuel qui est protégé dans la constitution, ben, ça implique que le Parlement, qui fonctionne avec la règle de la majorité, ne pourra pas enfreindre ce droit-là. Okay. Ce qui va donc protéger les droits des individus contre toutes sortes de manières qu'on aurait d'atteindre ce droit-là. Mm-hmm. Et il est un des amendements qui est qui a été apporté à la Constitution américaine, qui est l'amendement qui concerne le droit de porter et de conserver des armes à feu. En fait,
si c'est un amendement, c'est-à-dire qu'il n'était pas là au tout départ dans la première Constitution, ça a été ajouté par après?
C'est ajouté par après, mais relativement tôt après la guerre d'indépendance. Je n'ai pas la date de mémoire en tête, mais c'est effectivement, c'était pas dans le texte des pères fondateurs au départ. Mais ça a été rapidement rajouté. On l'a retrouvé aussi dans certaines constitutions d'État qui sont antérieures à la constitution du gouvernement fédéral américain.
Okay.
Essentiellement, le deuxième amendement, donc c'est de celui-là dont on parle, dit ceci. « A well-regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. » Donc, un des aspects fondamentaux de cette disposition-là, c'est que ce qu'on va souvent entendre dans le discours populaire, c'est le droit to keep and bear arms.
Okay.
Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des mots avant qui viennent essayer de rattacher ça avec une milice bien encadrée qui est nécessaire pour la sécurité de l'État.
Est-ce que tu peux nous traduire très exactement le fameux amendement?
Très exactement,
ben,
non.
Pas exactement, mais nous le traduire, s'il te plaît.
Mais je vais essayer de le traduire et je vais souligner aussi, parce qu'il y a des virgules dans le texte, ce qui rend la tournure de phrase moins évidente. C'est-à-dire, une milice bien régulée, virgule, étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, virgule, le droit du peuple de conserver et de porter des armes, virgule, ne pourra être atteint.
OK. C'est très différent de ce qu'on pourrait croire. C'est que c'est la milice qui a le droit d'être armée. C'est pas tout citoyen.
Oui et non. En fait, c'est un débat qui s'est longtemps posé parce que les mots milice, effectivement, impliquent quelque chose dans le texte. Et en fait, la Cour suprême des États-Unis a eu l'occasion de se pencher profondément sur ce texte-là en 2008. Donc, c'est un texte qui date de 1789, je pense, mais enfin, il date de la fin du 18e siècle. Et ça a été à 2008, avant qu'on l'étudie vraiment à fond, dans l'affaire District of Columbia contre Eller. Ce qu'il faut voir, c'est que M. Eller est un agent spécial qui ne pouvait pas, à cause d'un règlement du district de Columbia, avoir chez lui une arme de poing chargée. Tout ce qu'il pouvait avoir, c'était avec un permis et il fallait qu'elle soit démontée chez lui.
OK.
La Cour suprême des États-Unis, qui est constituée de 9 juges, a rendu une décision là-dessus et devait savoir, en fait, trancher que veut dire le deuxième amendement, à savoir s'il protège un droit collectif, c'est-à-dire le droit aux gens qui sont dans une milice d'avoir des armes à feu, ou plutôt un droit individuel, c'est-à-dire le droit de tout le monde d'avoir un gun pour se défendre. La Cour s'est divisée à 5 contre 4. Ça se peut, les cours suprêmes font ça.
Oui, en effet.
Alors, les juges d'une opinion vont avoir un groupe de motifs et il va y avoir d'autres motifs pour les juges qui sont dissidents et la majorité l'emporte. Alors, essentiellement, dans ce cas-là, la majorité, sous la plume du juge Scalia, a examiné l'expression grammaticale du texte, les textes contemporains à l'époque, les premiers commentateurs sur ce texte-là, pour en venir assez brièvement à la conclusion que c'est pas un droit collectif, parce que si on protège un droit collectif, c'est-à-dire un droit de faire partie d'une milice, c'est farfelu, parce que c'est pas un droit de faire partie d'une milice, c'est une obligation. Si on t'oblige à prendre les armes pour défendre ton pays, c'est pas un droit que t'as, c'est une obligation. Or, si on l'a mis dans la Constitution pour le protéger, forcément, il faut que ce soit un droit. Alors, on a regardé ça, on s'est dit, ben, historiquement, puisque les milices ont joué un rôle important, dans la guerre d'indépendance, puisque avant l'indépendance des États-Unis, en Angleterre, il y a certains rois qui, pour s'assurer d'avoir un meilleur contrôle sur le peuple, se sont assurés de désarmer le peuple. On comprend que le mot milice, ça nous prend de la milice, mais pour avoir de la milice, ça prend des volontaires avec des armes. Donc, le second amendement protège le droit individuel d'avoir une arme. Quel genre d'arme? Ben, une arme que le public a en général pour son utilisation personnelle de défense, et ainsi de suite. Mais pas forcément une arme d'armée, parce qu'une arme d'armée, ben, ça pourrait être quand même assez puissant. Alors, en gros, c'est ce que la majorité dit. Donc, c'est un droit individuel. C'est une arme qui est reconnue par le public en général comme une arme d'utilisation courante, et tout le monde peut en avoir une. Donc, le règlement du District of Columbia est inconstitutionnel et il est invalide.
OK. Donc là, si je comprends bien, dans la Constitution américaine, telle que ça a été analysé par des juges récemment, c'est qu'effectivement, tout citoyen a le droit de porter une arme sur lui, mais une arme d'usage usuel ou normal, donc ça n'inclut pas les armes d'assaut, là.
C'est ce que vous croyez. On va y arriver un peu plus tard aux armes d'assaut. En fait, la question de savoir qu'est-ce qui est une arme usuelle n'a pas été interprétée par le tribunal. Eux se sont limités à dire, parce que dans ce cas-là, c'était vraiment la question d'avoir un revolver, donc c'est une arme relativement petite, une arme de poing. Oui. Donc, on n'a pas besoin de la porter à la carabine pour tirer.
À deux mains, là, oui, c'est ça.
Exactement. En général, c'est pas toujours le cas, mais en général, c'est limité à 9 coups.
OK.
Mais c'est important. Mécaniquement, le revolver, le pistolet plutôt, est assez rapproché d'une arme d'assaut à certains égards. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Mais essentiellement, dans ce cas-là, c'est que puisque le règlement portait sur les pistolets, c'est ce règlement-là. Donc, on sait qu'avoir un pistolet, c'est courant pour sa défense aux États-Unis. Donc, c'est protégé par la Constitution. On ne va pas plus loin. Okay. Quoique certains commentaires en marge du jugement qui ont été émis par les juges majoritaires qui laissent entendre qu'un M16, qui est une arme militaire, une mitraillette, c'est pas forcément une arme d'utilisation courante.
Bien, j'espère bien.
Voilà. Évidemment.
Ça semble assez évident.
Oui. Dans la même logique, les juges minoritaires, eux, en fait, disons dans la même logique, ou plutôt ont pris l'opinion diamétralement opposée, c'est-à-dire que le deuxième amendement protège un droit collectif. Donc, ça protège, en fait, la compétence des États aux États-Unis de lever et d'organiser des milices et d'avoir des gens qui sont armés dedans sans que le gouvernement fédéral américain interfère dans ce pouvoir-là des États. Mais évidemment, ce n'est pas l'approche qui a été retenue, puisque c'était une minorité de juges qui ont retenu cette approche-là.
Cette approche-là.
Ce qu'on remarque du jugement majoritaire, c'est qu'il s'inscrit relativement bien dans la culture de l'arme à feu des États-Unis. La gun culture, qui est quelque chose qui a été noté en premier par l'historien Richard Hofstadter, qui notait que déjà dès la fin des années 60, les États-Unis étaient le pays occidental, industrialisé et urbanisé, où il y avait le plus d'armes à feu, tendance qui ne s'est pas inversée, loin de là d'ailleurs, et où les gens, pour toutes sortes de raisons historiques et culturelles, tiennent à avoir une arme à feu. Donc, ça, c'est un autre élément qui est important à prendre en compte lorsqu'on examine le contrôle des armes à feu ou les lois qui servent à contrôler les armes à feu. D'une part, on a la Constitution américaine qui protège le droit à l'arme à feu, mais culturellement, c'est un droit que les gens veulent exercer. C'est un droit qui se rattache énormément à leur culture. Pas forcément que tous les Américains tiennent
non,
à être armés.
Pas tous les États non plus. On a, nous, le sentiment que c'est plus le Bible Belt, l'Ouest. Sur la côte Est, on ne sent pas... C'est Western un peu, hein?
Oui et non. On attache l'idée des gens qui se promènent avec des shotguns puis qui tirent partout, beaucoup avec la Bible Belt et le Sud. Mais j'attirerai à votre attention quelque chose qui est intéressant. L'État où il y a le moins de meurtres par arme à feu aux États-Unis, c'est le Vermont.
C'est pas étonnant. C'est un des États qui est le plus de gauche.
Certes, mais c'est aussi un des États où il y a le moins de contrôle des armes à feu.
Ah oui?
Exactement. Il n'y a aucune limite sur les armes d'assaut. Il n'y a pas de limite, pas besoin de permis. Vous achetez une arme à feu chez quelqu'un qui, en vertu des lois fédérales, va avoir son permis. Mais au-delà de ça, il n'y a à peu près aucun contrôle sur le port d'armes à feu. Donc, le contrôle n'est pas nécessairement en lien direct avec les conséquences. Okay. Et le cas du Vermont va assez bien l'illustrer, puisqu'il n'y a pas de contrôle qui existe et les gens ne se tirent pas dessus pour autant.
En parlant des différences d'un État à l'autre, les réglementations, j'imagine, diffèrent passablement. Et ça va de quoi à quoi? Ce serait quoi l'État qui serait le plus contrôlant et le Vermont étant le moins, là?
En fait, la comparaison peut difficilement se faire d'un État à l'autre. Premièrement, il faut comprendre qu'il y a un minimum de contrôle qui a été établi par le gouvernement fédéral américain. Le premier aspect du contrôle du gouvernement fédéral américain est un contrôle en matière de commerce. Donc, pour vendre des armes à feu, ça vous prend un permis. Les vendeurs d'armes à feu vont avoir des exigences de registre à tenir, donc savoir à qui ils vendent et s'assurer que l'acheteur, dépendamment du type d'arme, va avoir soit 18 ans ou plus ou 21 ans ou plus. Quand on parle d'armes d'épaule, c'est 18 ans ou plus. Armes de poing, 21 ans et plus.
OK.
Il y a moins de contrôle sur les armes entre personnes privées. Donc, si j'ai un fusil et que je décide de vous le vendre à vous sans être obligé, sans être un vendeur tenu d'avoir un permis, j'ai pas les mêmes exigences qui s'appliquent. Par contre, l'achat de munitions peut demander un certain contrôle auprès d'un vendeur titulaire d'un permis.
Et donc, les différences sont plus de ce type-là, là?
Ça, c'est uniquement au niveau des lois fédérales.
OK.
Ça, c'est le titre 1 de la loi fédérale. Le titre 2 porte sur un certain nombre d'autres armes qui sont beaucoup plus destructrices. Donc, on va rentrer dans cette catégorie-là, les mitraillettes, les armes d'artillerie, les lance-grenades, où là, ça prend un permis pour en acheter une. Et évidemment, ça prend un permis pour en vendre une. Et vous serez rassuré qu'il y a une taxe de 200$ à l'achat d'un lance-grenade.
Ça nous rassure beaucoup, beaucoup.
Voilà. Là,
donc, seulement les riches peuvent avoir un lance-grenade. Bon, enfin, 200$, c'est quand même pas si...
Oui, et évidemment, il faut qu'il y ait eu un permis avant. C'est 200$ plus un permis, tandis qu'il n'y a pas forcément... En fait, acheter une arme à feu aux États-Unis, c'est comme acheter de l'alcool ici. Le vendeur doit avoir un permis, mais l'acheteur, on va juste vérifier s'il a l'âge.
OK.
Il y a un certain un background check qui doit se faire pour s'assurer que les personnes ne soient pas des félons ou d'autres criminels ou totalement, en fait, qu'ils ne soient pas aptes mentalement à...
Donc, c'est le vendeur qui détient le permis, c'est pas l'acheteur.
Exactement.
L'acheteur n'a jamais besoin de permis pour s'acheter une arme à feu.
Sauf si, en vertu des lois fédérales, une arme du titre 2 de la loi, donc une mitrailleuse, un lance-grenade, ce genre de choses-là, là, ça prend un permis pour en avoir une. Ça en prend un pour le vendre et ça en prend un pour l'acheter.
Puis est-ce que c'est compliqué d'obtenir un permis pour un lance-grenade?
J'ai pas essayé.
Je comprends ça. Pour revenir à la culture gun, c'est quoi exactement ça? Ça vient d'où, cette mentalité-là?
Les historiens semblent rattacher ça vraiment avec une idée historique qui date de la guerre d'indépendance, à savoir que dans la psyché collective des Américains, c'est pas l'armée continentale américaine contrôlée par Washington qui a battu les Anglais puis qui les a mis dehors des États-Unis. Ce sont les milices de citoyens armés, d'agriculteurs, de gens qui habitaient les fonds des États, qui avaient des armes à feu pour protéger leur bétail puis se défendre contre les Amérindiens qui les attaquaient. Donc, il y a une idée qui vient du fait que les États-Unis ont acquis leur liberté grâce aux armes à feu. Et il y a aussi cette idée-là qui semble être sous-jacente au discours, notamment celui de la NRA, qui est de dire une arme à feu, ça permet de se défendre contre les actions du gouvernement qui pourraient être mauvaises pour votre liberté. Donc, c'est ça qui est un peu particulier, c'est que ça devient une arme de défense non seulement contre les bandits qui pourraient arriver armés chez vous, mais ça devient aussi une arme de défense contre l'État qui pourrait vous oppresser. Un peu comme si la possibilité que la population soit suffisamment armée pour menacer de façon constante d'insurrection, soit un motif ou une incitation pour le gouvernement à respecter les libertés fondamentales de la population.
Et d'où vient cette peur, cette paranoïa contre l'État, alors qu'il y a une démocratie qui permet de changer ce gouvernement-là à tous les 4 ans? C'est quoi ça?
Ça vient probablement d'une question de confiance envers ces institutions. Il y a aussi une autre chose, c'est une démocratie, c'est la démocratie, c'est 50 % plus 1. Donc, il y a un 49 % de gens qui peuvent être en désaccord. Et l'idée d'avoir un droit qui est protégé dans la Constitution, c'est pour protéger les droits du 49 % qui sont en désaccord. Le droit à l'arme à feu, qui comporte de la vie des tribunaux, le droit à l'autodéfense, est protégé par la Constitution justement pour faire en sorte que ce ne soit pas la majorité démocratiquement élue qui puisse venir y porter atteinte.
Oui, enfin.
Ce qui induit, je présume, un raisonnement un peu singulier du genre ben, le gouvernement qui essaie de porter atteinte à mon droit est un gouvernement qui est mauvais pour les libertés fondamentales, donc j'ai besoin de me défendre contre ce gouvernement-là. Donc, l'idée même de chercher à contrôler les armes à feu est une idée qui veut dire porter atteinte aux droits de quelqu'un.
Et en terminant, qu'est-ce que Barack Obama a tenté de faire adopter comme mesure cette année?
Une des premières mesures qu'il tente de faire, c'est de réintroduire la loi contre les armes d'assaut qui a été faite sous Clinton en 1994 et qui a cessé d'avoir effet en 2004 parce qu'elle a atteint sa clause crépusculaire qui prévoyait qu'elle cessait d'avoir effet. Alors, essentiellement, cette loi-là, c'est une loi qui venait interdire d'avoir des armes d'assaut, donc des armes qui, d'un point de vue cosmétique, ressemblent à des mitraillettes et qui n'en sont pas. Vous savez d'ailleurs, je terminerai là-dessus, c'est quoi la différence entre ces armes d'assaut-là qui sont semi-automatiques et une mitraillette?
Non.
Bon, alors la mitraillette, vous appuyez sur la gâchette, la balle tire, le recul va faire sortir la cartouche, remettre une nouvelle balle et mettre feu à la nouvelle balle, de sorte que tant que la cartouche est enfoncée et qu'il y a des balles dans le chargeur, ça tire. L'arme semi-automatique fait tout ça, sauf mettre feu à la nouvelle balle. Mais aussi vite que vous êtes capable de tirer sur la gâchette,
oui,
attire.
C'est ça.
Ce qui fait que ça peut faire beaucoup de dommages. Mais il semblerait qu'en ce moment, aux États-Unis, l'arme de défense personnelle la plus vendue, c'est le AR-15, si ma mémoire est bonne, qui est une arme semi-automatique, qui ressemble à s'y méprendre à un M16, mais qui n'est pas capable d'agir comme une mitrailleuse.
C'est formidable.
N'est-ce pas?
Merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir fait ce tour d'horizon donc de la vie des Américains et de leur relation avec les armes à feu. On va faire une petite pause musicale. On va écouter une pièce du groupe The Stooges, Down on the Street, et on revient avec Rémi et la ville de Détroit, la ville de l'automobile devenue une ville abandonnée. À tout à l'heure. C'était « Down on the Street » du groupe de Stooges. Et on revient avec notre libraire, David, qui vient nous lire une autre petite citation.
Oui, alors celle-là, une de Bertolt Brecht, dramaturge allemand. Alors, ne serait-il pas plus simple alors pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre? Voilà.
Merci, David. Alors, on va parler maintenant de Détroit. Bonsoir, Rémi.
Bonsoir, Catherine.
Alors, Détroit, comment ça a commencé, tout ça? Comment ça s'est construit, Détroit, et pourquoi c'est l'industrie automobile qui s'y est installée?
Ben, en fait, Détroit, comme son nom l'indique, a été fondé par des Français. C'est Monsieur de Cadillac qui s'est installé sur le futur site de Détroit en 1701. Il était accompagné à l'époque avec une centaine de coureurs des bois.
OK.
Puis, ils se sont mis à faire du commerce de fourrure.
Bon. Donc, en 1701, et c'était des Français.
Oui, ils sont restés là jusqu'en 1760, au moment où la ville est tombée aux mains des Anglais. Okay. En fait, c'est dans la continuité des capitulations de Québec, de Montréal. Puis en fait, c'était les dernières heures de l'Amérique française qui se sont achevées là.
OK.
Faut comprendre, la ville de Détroit a une position stratégique parce qu'elle se retrouve au cœur des voies navigables des Grands Lacs.
Oui.
Donc, l'économie a pu se développer autour du transport lacustre. Il y avait des chantiers navals aussi, des industries manufacturières diverses. Mm-hmm. Jusqu'à ce qu'en 1896, un certain Henry Ford a ouvert sa première usine d'automobile.
Qui est connu pour son modèle T.
Exactement, le modèle T, donc, qui était la première voiture qui a été construite à grande échelle, puis distribuée à grande échelle. Puis pour construire ce modèle T, M. Ford a mis en place son système qui était le Fordisme.
Oui.
Donc,
la chaîne de montage.
Exactement, la chaîne de montage. Apparemment, qu'il aurait trouvé cette idée-là en visitant un abattoir.
Ah oui?
Ouais.
Moi, je ne connaissais pas l'anecdote, c'est intéressant.
Donc, il a appliqué ça à l'automobile. Puis donc, c'est du travail à la chaîne, mais en plus, le Fordisme combine ça avec des salaires qui étaient relativement élevés, jusqu'à deux fois plus que dans les industries de la région.
Okay.
Ce qui fait que ça a vraiment décollé, ça a vraiment attiré beaucoup de monde.
Si je me souviens bien, l'objectif de M. Ford, c'était que tous ses employés puissent se procurer une voiture, la voiture qu'il construisait.
Oui, j'imagine que c'est un peu le cordonnier bien chaussé.
Oui, c'est ça. Donc, la première usine de Ford, c'est à Détroit.
Oui, mais il n'y a pas juste Ford, il y avait aussi Dodge, Chrysler et bien d'autres.
Et ça s'est adonné que Détroit est devenu une ville de l'automobile parce que ça a comme commencé par hasard avec Ford, puis ensuite d'autres se sont installés parce qu'il y en avait une là, puis probablement que les ouvriers étaient déjà spécialisés dans ce domaine-là. Je m'imagine, là.
C'était déjà une ville qui a toujours été industrialisée. Puis, oui, toute la main-d'œuvre s'est ramenée par là. Il y avait aussi des voies de communication qui permettaient facilement de déplacer les automobiles à partir de Détroit. Puis, c'est ça, la ville s'est vraiment étendue à partir de là parce qu'en plus, c'est toutes des industries qui prennent beaucoup de place, les automobiles.
Oui, ça prend beaucoup de terrain.
Donc, on avait 265 000 personnes en 1900 à Détroit. Puis, en 1950, là, on parle de l'apogée de la ville, on est rendu à 1 850 000.
Wow.
Donc, en 50 ans, on a comme multiplié par 8, si je calcule bien.
Est-ce que tu sais, c'était quoi la place de l'industrie automobile dans l'économie de la ville, son importance?
C'est vraiment c'est une ville mono-industrielle où il n'y a à peu près que de l'automobile. Puis, dans le fond, tout le reste de l'économie dépend de l'automobile.
De l'automobile. Alors, Détroit, c'est aussi une vitrine de l'Amérique. Hein? C'est le melting pot américain. C'est le symbole de l'automobile, Détroit, c'est ça. Puis, l'automobile, c'est dans l'imaginaire américain, ça prend beaucoup de place.
Absolument. C'est beaucoup relié à ces valeurs américaines typiques de liberté, d'indépendance, etc.
Ouais.
Ça permet d'aller où on veut, d'y aller seul. De ne pas dépendre d'un moyen de transport autre, surtout que les autres moyens de transport étaient relativement déficients. Puis ils le sont encore. Prendre le train aux États-Unis, ce n'est pas toujours facile.
L'automobile a véritablement dessiné aussi l'architecture et le design des villes américaines.
En effet, ça s'inscrit dans un peu tout le casse-tête, si on veut, du rêve américain d'avoir son accès à la propriété, à la prospérité, sa petite maison de banlieue. Donc finalement, ça a totalement structuré le territoire, tous les territoires des villes, où on a créé en plus des autoroutes qui parfois traversent des centres-villes, et pour que ce soit très simple en auto de rentrer dans son petit pavillon de banlieue après sa journée de travail.
Et j'imagine que Détroit était aussi construite comme ça, comme toutes les autres grandes villes américaines.
Absolument, c'est une architecture avec des blocs, des autoroutes, puis des...
Des banlieues.
Ouais. Et... Ouais.
Donc, c'est ça, voiture, individualisme, liberté, modèle américain, consommation aussi.
Ben, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans la culture, notamment dans la littérature américaine, la place de la route, toute l'image de la route, de partir. Souvent, on part pour échapper à une condition misérable dans laquelle on est. On va chercher un meilleur avenir, souvent ouais. vers l'ouest. C'est quelque chose qu'on trouve qui est très présent dans le... C'est ça, dans toute l'imagerie populaire. Et aujourd'hui, les constructeurs américains sont vraiment en crise. Mais ça veut pas dire, il n'y a pas moins de voitures aux États-Unis. C'est juste tout la concurrence asiatique qui a porté un coup dur à ces constructeurs-là, à GM, Chrysler, etc.
La population noire était importante aussi à Détroit?
Oui. C'est en fait, ça commence l'immigration des Noirs. Commence dans les années 20. Donc, ils sont attirés justement par... C'est des gens qui viennent des États du Sud, qui sont attirés par des salaires bien meilleurs que ce qu'ils pouvaient avoir...
Dans les champs de coton, entre autres.
Absolument. Puis, dès le début, en fait, Détroit a été un symbole de... Tu parlais de melting pot tantôt,
oui,
là?
Oui.
Mais justement, c'est pas un melting pot, là, c'est vraiment... Tout de suite, il y a eu une ségrégation résidentielle très importante à Détroit, où les Noirs vivaient dans les quartiers pauvres du centre.
Okay.
Et c'était avec beaucoup de tensions.
Et les Blancs dans les banlieues riches à l'extérieur.
C'est ça, beaucoup...
Et puis les Noirs étaient au centre-ville.
C'est ça, une ségrégation du territoire, les écoles, et tu avais des écoles noires, des écoles blanches, puis avec beaucoup de tensions entre ces communautés. Et tout ça, le paroxysme, tout ça, ça a été en 67. En fait, Détroit a commencé à décliner dans les années 50, après la guerre.
Ah oui?
Ouais. En 67, on avait déjà perdu 150 000 emplois dans le secteur automobile.
Ah oui? J'aurais jamais cru ça. Ouais. Moi, je croyais que ça avait commencé là, dans les années 80, là, après les premières crises pétrolières.
Non, ben en fait, pour compter l'histoire entière, dans le temps de la guerre, toutes les industries ont été réquisitionnées pour créer des...
Pour l'effort de guerre?
C'est ça. Et puis, elles ont du mal à s'en remettre. Puis, dès les années 50, ça n'allait plus. Elles avaient comme perdu, j'imagine, leur innovation technologique. Elles n'étaient plus vraiment à la pointe.
Pourtant, c'est l'âge d'or de l'automobile. Les années 60, des grosses Cadillac convertibles avec les nez qui étaient très longs. Puis, c'était très élégant comme automobile.
Ouais, ben, il y a eu des déplacements aussi des lieux de production. Puis, c'est ça. Donc, c'est ça. En 67, on a déjà perdu 150 000 emplois. Et qui est-ce qui est le plus touché, selon toi? C'est la population noire.
Et nécessairement.
Donc, on avait un taux de chômage deux fois plus élevé dans la population noire. Donc, une hausse de la criminalité, des tensions qui deviennent vraiment insoutenables.
Tu semblais dire qu'en 67 est arrivé un événement particulier?
C'est ça, il y a une émeute qui a éclaté. Donc ça a été dû, ça part d'une arrestation de 80 personnes qui se trouvaient dans un bar illégal, donc des personnes issues de la communauté des Noirs. Et... il y a une émeute qui a éclaté, qui a duré 6 jours. Là, c'est vraiment impressionnant. Là, on parle de 43 morts, 467 blessés et 2000 bâtiments qui ont été détruits.
Ah oui, c'est énorme.
Oui, l'armée a dû intervenir pour mettre fin finalement à cette émeute-là. Je pense qu'il y a eu 7000 arrestations. Ça a complètement changé toute l'image de la ville. Puis les quelques blancs qui étaient encore dans le centre sont tous migrés vers les banlieues. Aujourd'hui, Détroit, c'est 82% de Noirs.
Ah ouais?
C'est le plus haut taux aux États-Unis. Puis dès qu'on arrive en banlieue, là, on tombe à plus de 80% de Blancs. C'est vraiment une ségrégation extrême. Puis on donne vraiment l'impression d'une population noire qui est prisonnière du centre-ville, qui ne peut pas partir et qui n'a pas les moyens de le faire.
Aujourd'hui, le centre-ville, il est plutôt déserté. Tu me dis qu'il y a 80% de population noire, mais il y a des quartiers qui sont, si on se fie aux images qui circulent, qui sont carrément déserts.
Ouais, ben c'est ça. Il y a de nombreux terrains qui sont vides. La ville a perdu la moitié de sa population. Je parlais d'1,8 million tantôt en 1950. Là, on est à 900 000 maintenant. Puis il y a beaucoup de maisons qui ont brûlé. J'ai pas le chiffre en tête du nombre de maisons qui brûlent chaque jour à Détroit. Mais...
Ah oui?
Oh ouais, c'est plusieurs maisons. Les gens mettent le feu pour récupérer un petit peu d'assurance, etc. Donc, finalement, le bon côté de ça, si l'on veut, là, c'est que ça libérait beaucoup d'espace. Et au début, il y a eu un réflexe de survie. Des gens qui ont utilisé ces espaces-là pour faire pousser des légumes, puis pour c'était juste pour manger, basiquement. Là.
Sur des terrains où on m'a dit qu'il y a des quartiers qui avaient été passés bulldozer aussi, hein? Mm-hmm. Donc ça crée beaucoup d'espace, ça.
Oui, mais des fois tu peux marcher trois blocs, puis il reste une maison, tu sais.
Ah ouais.
Oh, oui. C'est impressionnant. Là, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire, d'aller sur Google Street View, puis d'aller se promener dans Détroit. Là. Des fois, on ne voit pas grand-chose là, pendant un petit bout.
Et donc, les gens qui sont là en ce moment font de l'agriculture urbaine.
Oui, c'est ça. Donc, c'est beaucoup des jardins communautaires, okay, qui sont basés sur la vie de quartier. Puis, les gens vont s'entraider, partager des connaissances, etc. C'est une situation qui était ironique quelque part, parce que la ville de Détroit s'est développée grâce à l'automobile, qui est un symbole d'individualisme.
Oui.
Puis aujourd'hui, ce qui permet à la ville de survivre, c'est justement le fait que les gens se regroupent, puis font des choses ensemble. C'est un retour à la terre en plus.
Un retour à la terre en plus. Mais c'est ironique, puis en même temps, c'est beau de dire que cette ville-là, qui a été le symbole de l'automobile, est en train de devenir le symbole de l'agriculture urbaine, puis justement, comme tu dis, des groupes communautaires. Est-ce que ça pourrait laisser présager pour le futur un nouveau rêve américain?
Ben, c'est quelque chose qui est à suivre, parce qu'il y a beaucoup de villes qui regardent ça. Par exemple, à Montréal, il y a eu un rapport qui a été commandé par la ville pour l'agriculture urbaine, pour faire un bilan un peu de la situation, puis pour essayer de planifier ça. Donc, on risque de voir une explosion du nombre de jardins communautaires à Montréal.
Oui.
Puis de manière générale, toutes les villes nord-américaines se prêtent très bien à ça, parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts, tout le temps des ruelles qui finalement sont sous-utilisées.
Oui, tout à fait.
On pourrait mettre des jardins. Il y a beaucoup de villes avec des toits plats aussi. On pourrait faire pousser des légumes sur des toits. Ouais.
Mais c'est pas ça qui va faire renaître une économie à Détroit, par contre.
Bah, tel qu'on l'a connu, non. C'est ça permet d'avoir à manger, mais pas mal plus que ça. Il y a des projets spéciaux quand même. Il y a des gens qui essayent de profiter de ce mouvement-là pour le ramener un peu dans le giron de l'économie capitaliste. Il y a un monsieur Hans qui, lui, a lancé le projet, c'est Hans Farms.
Okay.
Puis lui, ce qu'il veut, c'est lancer vraiment un projet d'agriculture industrielle.
Ah, ouais.
Sur les terres désertées des Trois.
Où il y a des jardins communautaires en ce moment.
Ouais, puis profiter en fait du fait que la population, finalement, c'est comme développer une expertise, puis en même temps accepterait des bas salaires.
Aïe, aïe, aïe.
Pour lancer un grand projet d'agriculture urbaine à échelle gigantesque. Là.
Alors, adieu, nouveau rêve américain. On revient toujours au même, même pattern.
Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça d'un mauvais œil quand même.
Oui.
Puis, je suis pas sûr qu'ils réussissent à faire tout ce qu'ils veulent. Ça,
Parce que les gens qui ont construit ces jardins communautaires-là, ils tiennent à garder leur autonomie, j'imagine.
Ouais, ben lui, ce qu'il voulait, c'était plus récupérer des terrains, dealer avec la municipalité. Il n'irait pas écraser non plus au bulldozer les jardins communautaires qui existent.
Non, c'est ça. Ben, on va leur souhaiter bonne chance. Merci beaucoup, Rémi.
Ben, ça me fait plaisir.
On va faire une autre pause musicale. On va maintenant s'éloigner un petit peu du sujet des États-Unis comme tel, tout en demeurant en Amérique. On va écouter la pièce Mamitunenitamun. Texte de Philippe Mackenzie, interprété par Chloé Sainte-Marie. Et nous vous revenons ensuite avec Mylène et l'Autochtonie.
Bye.
C'était donc la pièce Mamitu Neni Tamoun. On revient avec David. Bonjour David.
Bonjour. Qui tu disais?
Le titre de la pièce, c'est Mamitu Neni Tamoun. Il me semble faire répéter ça parce que c'est difficile à dire. Donc, tu nous lis une autre citation?
Oui, toute petite celle-là, qui n'a pas rapport non plus avec le topo de Mylène. C'est donc « Nous allons vous presser jusqu'à ce que vous soyez vide, puis nous vous emplirons de nous-mêmes. » Une citation tirée de 1984 de George Orwell.
George Orwell. « Nous allons vous vider de ce que vous êtes et nous vous remplirons de nous-mêmes. » C'est ça?
Des citrons ou des trucs comme ça. « Nous allons vous presser jusqu'à ce que vous soyez vide, puis nous vous emplirons de nous-mêmes. »
Ah, Orwell. Donc, bonsoir Mylène.
Bonsoir Catherine.
On vient d'écouter une pièce qui est un texte de Philip Mackenzie, qui, oui, j'imagine, est un autochtone.
Oui. Philip Mackenzie est un Algonquin, montagnais. Donc, il est considéré aujourd'hui comme l'instigateur, dans le fond, le père de la musique innu moderne.
Ah oui.
Donc, d'ailleurs, c'était interprété par Chloé Sainte-Marie. Chloé Sainte-Marie le considère, le met au même niveau que Miron et d'autres grands poètes.
Okay.
Juste en guise d'introduction, le titre de la pièce « Mamitu Neni Tamoun » signifie « méditation ».
Okay.
Et juste pour traduire rapidement ce qui est dit en guise d'introduction, c'est « Assis, je médite sur ce que je ferai demain, cherchant la force de vivre en tant qu'être humain. Qu'est-ce que je vais faire? Que vais-je léguer à la génération prochaine? Où vais-je les conduire? Assis, je médite sur ce que l'étranger m'impose. Il me détruit dans ma tête. Il me condamne au silence en m'enfermant dans des réserves. Il compense avec de l'argent pour enivrer ma douleur. Il détruit mon territoire. Il brise nos vies. Que vais-je faire? Où vais-je aller? Où conduire ceux qui nous suivront? La génération prochaine, où vais-je la conduire? Où vais-je la conduire? » Donc, je trouve que ça donne une bonne introduction quand même, parce que c'est ce genre de préoccupations-là qui sont à la base des revendications autochtones qu'on voit. La question du territoire, la culture, des ressources naturelles, puis aussi la perte des repères culturels.
Puis on dirait que ce sont des préoccupations qui touchent un petit peu tout le monde. Même nous, en ce moment, c'est des préoccupations qui nous touchent, la protection du territoire. Puis,
Oui, ça c'est évident, mais eux ont tellement été... ça reste que c'est nous, les colonisateurs,
oui.
Encore aujourd'hui. Donc, ce que je me propose de faire aujourd'hui, assez simplement, c'est un bref historique des revendications autochtones puis de l'émergence, dans le fond, des luttes autochtones, puis surtout à l'international. Donc, on va rester en Amérique, mais on va, ça concerne, l'autochtonie est un phénomène international. Donc on...
C'est la première fois que j'entendais le mot, moi, autochtonie.
Ben, en fait, c'est un concept qui est plus issu des sciences sociales, bon, de l'anthropologie, qui est comme une condition, même état. Justement, autochtone vient, un petit peu d'étymologie, autochtone.
Oui, oui.
Le mot autochtone vient du grec autos, qui signifie même, et knon, qui veut dire terre. Et on pourrait traduire librement, dans le fond, autochtone par ce qui vient de la terre même. Oui. Autrefois, l'acception commune de ce terme-là, c'était autochtone, indigène, qui était aussi le synonyme qu'on utilisait, était autochtone ce qui venait vraiment du territoire, ce qui était ancré, ça sous-entendait une certaine antériorité d'occupation. Bon. Et dans ce sens-là, indigène, autochtone, c'était les antonymes d'étrangers. Bon. Jusque-là, ça va, mais cette acception-là du mot autochtone, c'est une conception universelle qui est un peu ahistorique, dans le sens que partout à travers le monde, on avait...
Des populations autochtones.
C'est-à-dire qu'on disait, les peuples se construisaient en disant « nous » et « eux », tu sais, okay. « nous » les autres. Et c'était le fait des majoritaires, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi je suis née ici. Donc, selon cette acception-là du terme, je suis autochtone, voilà. Je suis indigène. On a vu apparaître vers la fin des années 70, 1970, une acception du terme qui s'est vraiment construite dans un contexte politique, social, socio-historique, dans le fond, vraiment différent. Le mot autochtonie va avoir un déplacement sémantique, dans le fond, il va vraiment prendre une autre tournure, si on veut.
Oui.
En 83, il y a eu un rapport, en 81, il y a eu un rapport qui a été commandé par l'ONU, je me souviens plus, mais je pense que c'était une commission sur la discrimination, puis en tout cas, on voulait essayer de voir un peu, justement, les Autochtones, à quoi ils étaient confrontés, les enjeux, des trucs comme ça. Puis Kobo a proposé une définition de travail. Donc, qu'est-ce qu'est l'autochtonie? Les populations autochtones, souvent, sont sous domination.
Bon, oui.
Premier critère. N'ont pas de libre accès aux ressources naturelles. Sont souvent en situation de minorité politique, souvent même non reconnus. Par exemple, la France ne reconnaît pas d'Autochtones sur son territoire, absolument okay. pas. Vont souvent être aussi exploités économiquement et niés culturellement.
Mais il n'y a pas d'Autochtones en France non plus, pas dans ce sens-là.
c'est encore embêtant, on en reparlera tantôt du cas de la France, puis de la déclaration de l'ONU sur le droit des Autochtones. Mais c'est suffit pas d'être sous domination pour se dire autochtone, c'est-à-dire que c'est un ensemble de facteurs. Et il y a trois critères vraiment qui vont s'articuler, c'est-à-dire que un critère d'antériorité d'occupation du territoire, de spécificité culturelle, de non-domination et souvent d'autodétermination. Puis les peuples qu'on va prendre un peu, qu'on va mettre comme emblème, si on veut, de l'autochtonie, ça va être les peuples qui ont été minorisés à travers la colonisation, les colonies de peuplement. Donc, on pense aux...
Les Amérindiens d'Amérique.
Oui, Amérique, donc Canada, États-Unis, les Inuits de toute la région mm-hmm. circumpolaire. Donc, c'est pas seulement nord du Canada, mais Norvège et compagnie.
Il y a les populations d'Australie, de Nouvelle-Zélande, tout ce coin-là.
Exactement, les Maoris de Nouvelle-Zélande et les Aborigènes d'Australie.
Okay.
Donc, ce sont vraiment les peuples, si on veut, qu'on va définir comme étant autochtones.
Okay.
Dans le fond, des facteurs qui ont favorisé, si on veut, l'émergence des luttes autochtones.
Tu parles de l'émergence des luttes autochtones, c'est l'émergence au 20e siècle, parce que les Autochtones,
en
Amérique, ils sont toujours battus pour leurs droits et leurs libertés depuis que l'Occident est débarqué sur leur territoire.
Oui, mais ça ne s'est pas fait. Le rapport de pouvoir était ridicule, c'est-à-dire il n'y a pas eu de réelle revendication dans le sens qu'il n'y avait pas de... Le rapport de force était tellement inégal qu'on ne peut pas parler vraiment de revendications qui se font entendre. C'est-à-dire qu'on était vraiment sous colonisation subie, puis jusqu'à toute la construction de l'État-nation, des États-nations, ou, comme on les connaît aujourd'hui partout à travers le monde, s'est fait en réduisant toujours le pouvoir de ces peuples-là, à plusieurs niveaux, économiques, géographiques, linguistiques, idéologiques, je veux dire. On ne peut pas parler de lutte, on ne peut pas dire non plus qu'ils se sont soumis, là, mais je veux dire, on ne peut pas parler de réelle lutte. Là. Okay. Avant, c'est à partir des années
70,
des 70 surtout, un petit peu à partir des années 1920. C'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale où les choses ont commencé à changer, parce qu'à travers le monde, il y a eu une conscientisation aussi par rapport à les luttes antiracistes, antisionistes, des trucs comme ça. Donc, plutôt antisémites, pas antisionistes. Mais il y a eu une conscientisation globale, mais avec les années 1970, tout ce qui a été mondialisation, les peuples autochtones se sont mis à se reconnaître, à comprendre qu'ailleurs dans le monde, il y avait d'autres autochtones, d'autres populations, peuples, cultures qui avaient subi un peu la même chose aux mains des Européens.
Ça se fait un peu grâce aux communications, au monde des communications, qui se sont rendus compte qu'il y avait d'autres gens comme eux ailleurs?
Ça a certainement été un facteur favorisant, parce qu'ils ont pris conscience qu'ils partageaient avec d'autres peuples une espèce de destin commun, une communauté de destin, en fait, qui s'est créée à partir de là, puis ils ont vu à quel point, dans le fond, c'était diversifié, et qu'avant il était isolé, tu sais, justement minorisé dans au sein des États. Ça a commencé à leur faire voir que on n'est pas tout seul, il y a beaucoup de forums qui se sont faits, de conférences, de discussions, puis là tranquillement ça fait boule de neige. Et une des stratégies qui a été faite pour aller de l'avant, si on veut, puis mettre de l'avant les luttes, ça a été l'effet boomerang. L'effet boomerang, c'est quoi? C'est que on va plutôt que de faire valoir nos revendications auprès des États, on va aller à l'international. Donc auprès de l'ONU, dans les médias. On va faire jouer ces revendications-là à l'international.
Okay.
Puis le but, c'est que ces revendications-là à l'international redescendent au plan national, et que là, il y a une pression qui soit exercée sur les États.
Okay.
Donc,
mais c'est le même stratégie que les environnementalistes aussi, là.
Oui, c'est ça, exactement.
Je pense à quelque chose qui n'a rien à voir avec les revendications autochtones, en fait. Ça serait même l'inverse, mais bref, c'est l'effet boomerang, comme la chasse aux phoques. C'est comme les gens qui sont contre la chasse aux phoques, ils vont voir à l'international, puis après ça redescend.
Ça redescend au Canada, par exemple. Donc, c'est sûrement que l'effet boomerang a été décrit dans d'autres contextes,
oui.
Mais c'est exactement ça. Par exemple, dans les années 70, il y a des communautés cris au Québec qui ont fait une tournée, qui sont parties en tournée en Europe.
Ah oui.
Et qui ont manifesté tambour battant devant toutes les ambassades canadiennes, dans le fond.
Ça a dû avoir un effet, absolument.
Ben c'est certain qu'après ça, le Canada réagit, ça fait bouger des choses,
ouais.
Et là, ils sont dans la rue, les gens les voient. Donc, il y a un paquet de stratégies comme ça qui se sont faites, qui ont... Donc, quand je parle de... C'est alerter l'ONU, mais c'est pas seulement la paperasse, là, parce que ce sont pas non plus il a fallu que les Autochtones, je veux dire, tout le système partout, politique, le langage politique ou juridique ou tout ça, n'est pas conçu. Il est conçu par des Blancs pour des Blancs, puis il n'est pas conçu pour les Autochtones en tant que tel. Donc, il a fallu qu'il y ait une espèce de... Ils ont fait jouer leur propre langage, leur symbole, leur truc, tout ça. Mais il y a aussi des jeunes qui ont étudié dans les années 70... on a commencé à avoir des jeunes avocats autochtones qui étaient capables de parler, entre guillemets, la même langue et de jouer sur... Oui. Fait que ça aussi, ça a été un facteur qui a beaucoup aidé, dans le fond, les luttes autochtones, parce que justement, là, on acceptait à quelque part de jouer la game dans les mêmes termes.
Et c'est tout ça qui a mené au Idle No More qu'on a vu cet hiver...
Oui, c'est certain. Puis avant Idle No More, qu'on voit au Canada aujourd'hui, je veux dire, si on prend l'exemple du Canada, le fait que le Canada ait adopté aussi dans sa constitution le multiculturalisme, ça aussi, c'est un des facteurs. Je veux dire, le Québec a été reconnu comme une nation. Les Autochtones aussi ont voulu être reconnus puis obtenir une espèce de reconnaissance au niveau fédéral. Donc ça aussi, ça peut être un facteur qui favorise l'immigration, qui fait que, bon, il y a tout un jeu de lutte de reconnaissance des identités qui se fait plus aujourd'hui. L'État-nation, comme on le connaît, tend à changer parce que, justement, la nation ou l'identité commune, c'est un peu utopique. Aujourd'hui, de penser, en tout cas, l'État-nation comme on le pensait auparavant.
Oui.
De penser l'État tout court, en fait. Donc,
ce serait quoi les revendications en ce moment de...
Ah, mais les enjeux autochtones sont à peu près toujours les mêmes, dans le sens où c'est souvent lié à l'accès à leurs ressources naturelles, à des questions linguistiques, de protection de leur langue.
L'éducation dans leur langue.
L'éducation dans leur langue, la pauvreté. Des fois, c'est justement de l'exploitation économique. Je veux dire, pour ceux qui ont vu le documentaire de Richard Mondry, plutôt Robert Mondry et Richard Desjardins, Le peuple invisible,
oui.
On voit toute une... toute une série de sites d'aberrations où...
Excellent documentaire, d'ailleurs,
oui,
ceux qui l'ont
ça,
pas vu, il faut absolument voir ça.
Oui. Mais, tu sais, je veux dire, des Autochtones qui habitent sur le bord d'un barrage, puis on refuse de connecter la petite communauté qui est là, que Hydro-Québec refuse de connecter la petite communauté qui est là au réseau. Quand tu vois le barrage qui est à côté, ces gens-là sont sous-génératrices dans des états d'extrême pauvreté parce que ça fournit pas en hiver, je veux dire. T'sais, on parle souvent d'un tiers-monde à l'intérieur même d'États qui sont considérés comme riches, là. Donc, c'est comme des pays en voie de développement à l'intérieur. C'est gênant, là.
Ah, tout à fait. L'ONU a reconnu une Déclaration universelle des droits des Autochtones.
Oui, en 2007, Déclaration universelle des droits autochtones, dans le fond, où on... Ça a été un long processus, en fait, là. Ça a été... ça date de 1985. Donc, et c'est seulement à partir de 1994 qu'on a vraiment adopté le projet d'en faire une déclaration. Donc, au départ, c'était seulement un groupe de travail. Et c'est vraiment le Conseil des droits de l'homme au sein de l'ONU, là, qui a porté le projet, si on veut, là. Puis c'est ça a été un long, long, long processus qui s'est terminé en 2007. La déclaration a été présentée pour la première fois en 2006, mais il y a eu, en fait, ça a été retardé parce que les États africains s'opposaient à certaines...
Ah oui? Oui,
ben, parce que la déclaration reconnaît le droit à l'autodétermination. C'est-à-dire que l'ONU, par exemple, ne tient pas de liste exhaustive des peuples autochtones à travers le monde. Et elle ne le fera pas non plus. Parce que c'est vraiment quelque chose auquel les Autochtones tiennent. C'est que justement... c'est aux populations autochtones eux-mêmes de se définir comme autochtones et de faire jouer leur identité qu'il y a un ensemble de critères. Je veux dire, c'est pas n'importe qui peut se déclarer autochtone et réclamer, admettons, des droits collectifs sur la terre ou tout ça qui peut le faire, mais justement les États interprètent ce droit-là à l'autodétermination comme si on leur octroyait le droit à la sécession. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'avoir leurs propres institutions politiques ou d'avoir...
Mais je comprends que les États puissent être inquiets, là.
Oui, mais c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas un droit à la sécession. C'est-à-dire qu'on... c'est plus quelque chose comme... les protéger leurs institutions qu'ils ont déjà en ce moment, leur manière de faire, ils peuvent pas, les États sont inquiets, mais ils peuvent pas, c'est pas n'importe qui peut réclamer des droits collectifs, puis je veux dire, les Autochtones ne veulent pas non plus sortir de l'État, tu sais, c'est une question d'intégration puis de reconnaissance.
Tout à l'heure, tu laissais entendre qu'il pouvait y avoir des Autochtones en France. Est-ce que tu peux préciser?
Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup... il y a des pays, dans le fond, qui ont refusé de signer la déclaration.
La Déclaration universelle des droits des Autochtones de l'ONU, là.
Okay. Dans le fond, si je regarde, excusez-moi, là, il y avait, en 2007, 13 septembre 2007, il y avait 183 États pour... Il y avait 4 États contre, là, vous allez rire lorsque je vais les nommer, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. la France, parce que si on va sur le site Internet de l'ONU, la France a dit oui, mais les États ont la possibilité d'expliquer leur choix, dans le fond, leur vote. D'expliquer leur vote, puis des fois, ça a un effet, ça a pour effet aussi de d'atténuer ou en tout cas de mettre des bémols sur... Puis la France a dit, nous, on dit oui, mais de toute façon, ça nous concerne pas parce qu'on n'a pas d'Autochtones en France. Oui. Mais c'est la France, si on pense à comment la République s'est construite, là, l'État français est indivisible. On reconnaît pas non plus... par exemple, en France, on refuse de tenir des statistiques sur la religion. Combien il y a de musulmans en territoire français, admettons. Combien il y a de gens de tel... Parce qu'on pense la citoyenneté française comme... c'est égalité, fraternité, bonté totale, justice, là. Mais donc, ils disent tout simplement... nous, on dit oui, mais il y en a pas chez nous. Puis, je veux dire, en terrain français, en sol français, il y a personne qui pourrait faire jouer
cette notion-là
d'autochtonie ou
mais
tout ça.
Mais je vois pas comment non plus, moi.
Ben, je veux dire, il y a des... tout ce qui est la Gaule, il y avait des gens qui parlaient une autre langue, qui avaient une identité culturelle. Avant que la France soit unifiée, là, oui. Ça s'est fait d'une manière assez oppressive. Là. Ce que je veux dire, c'est que...
Moi, les seuls autochtones, en tout cas, que je verrais en Europe, là, ouais. on prend un petit peu de temps, on s'étale un petit peu, on va finir rapidement, mais ça serait les Roumains, les Gitans, les... Ah, les Corses et les Bretons.
Mais les Bretons, tu sais, il y a des dialectes en France. Il y a des gens qui partageaient pas la culture commune avant que...
Ce que je veux, et qui existent encore.
Qui existent encore, okay. Mais je veux dire, on leur permettra jamais de faire jouer ça dans leurs revendications. Ce que je veux dire, c'est que...
Ouais, je comprends, là.
On pense qu'il n'y a pas d'Autochtones ou en France, les différences sont gommées au nom de l'égalité.
La République.
Ou de la République. La République est indivisible, je veux dire. Donc, on a l'idée d'une citoyenneté qui est la même pour tout le monde et, c'est, je veux dire, et ça fonctionne parce que nous, d'ici, on a une image assez uniforme quand même.
Oui.
Mais si on regarde puis on irait chercher des monographies puis, puis on regarderait le processus, dans le fond, bon, peut-être qu'on s'apercevrait qu'il y aurait... Il y aurait des distinctions ou des... Donc, bon...
Pour conclure,
c'est ça. Donc, le Canada a refusé. Et faut comprendre que c'est ça. On avait peur que le droit à l'autodétermination soit interprété comme un droit à la sécession, bon, des trucs comme ça. Depuis, tous les pays qui ont refusé de signer on dit que maintenant, il allait dans le sens de la déclaration, mais il n'y a jamais de vote qui est refait dans ces cas-là. Puis ce qui fait qu'ils n'ont pas voté. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont accepté. Même chose pour les États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie. Mais dans les faits, c'est ça. Ils ont refusé parce que bon, on avait certaines peurs, puis toutes les questions de territoire, puis de revendication de territoire, ils étaient plus frileux,
oui,
là, par rapport à ça. Donc, c'est un peu l'histoire du processus qui se fait.
De la déclaration,
oui.
Et on souhaite qu'à un moment donné, enfin, on verra le cheminement que cette déclaration-là aura dans le futur.
Oui.
Merci beaucoup, Mylène.
Au revoir.
Alors voilà, c'est comme ça que se termine donc notre émission d'avril. Je vais remercier tout le monde. Je remercie Gab Paquette pour la composition de la musique thème de l'émission. David, notre libraire, qui est venu nous faire de charmantes petites lectures de citations. Mes invités du mois, Mathieu, Rémi et Mylène. Et merci finalement à Big Nick pour la mise en onde et pour l'ensemble de son œuvre. Tiens, vous êtes à Radio Fiat Lux, la station de radio Internet expérimentale de Québec. Bonsoir.